7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous évoquons la maltraitance la plus invisible et la plus destructrice, l'inceste. Rien qu'en France, les chiffres sont glaçants. 4 millions de Français déclarent avoir été victimes d'inceste, c'est-à-dire d'agression sexuelle ou de viol par un membre de leur famille proche. Une relation interdite dans toutes les sociétés, toutes les cultures et qui brise toute une vie. Alors comment expliquer qu'à une époque où la parole est si débridée, le tabou de l'inceste demeure dans le secret des familles et que les plaintes en justice soient si rares. Alors certes, depuis mars 2016, en France, l'inceste a fait son entrée dans le code pénal avec la loi sur la protection de l'enfance. Mais qu'en est-il de l'inceste commis sur des personnes majeures? Nous allons en discuter avec vous. Laurent Boyer, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Perpignan, en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Roussillon. Vous êtes aujourd'hui capitaine de police.
Oui.
Et vous publiez « Tous les frères font comme ça ». Vous avez été violée par votre frère à 6 ans, jusqu'à l'âge de 9 ans, et il vous a fallu presque 40 ans pour parler. Vous nous direz comment les victimes peuvent et doivent participer à la protection des enfants actuellement abusés par leurs paroles. Isabelle Steyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste des questions de violence conjugale, de viol et des enfants maltraités. Et vous nous disiez d'ailleurs que vous êtes sur une affaire d'inceste en cour d'assises demain.
Demain.
Dont
voilà.
On ne parlera pas puisque vous n'êtes pas autorisée à en parler, mais enfin. Fabienne Giuliani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, vous avez publié une histoire de l'inceste au 19e siècle, les liaisons interdites. Et pour dialoguer avec nos invités en tout anonymat, vous pouvez bien sûr nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous lis quelques messages, deux messages qui nous sont parvenus intéressants. Chandra qui est à Yaoundé au Cameroun, elle nous dit « Moi je ne veux pas témoigner à l'antenne, j'ai été victime, ce mot semble ne pas me correspondre car je considère jusqu'à aujourd'hui que je suis la seule responsable. J'ai été victime, donc poursuit-elle, de plusieurs abus sexuels, la première fois à l'âge de 6 ans de la part d'un cousin, quelques années plus tard chez ma sœur, je n'ai cessé d'être la chose de mon beau-frère et de ses trois neveux qui y habitaient aussi la maison, ça a duré des années. » J'ai aujourd'hui de lourds problèmes psychologiques et j'ai perdu toute confiance en moi. Elisabeth est en France. J'ai été abusée sexuellement à l'âge de 7-8 ans par un cousin âgé de 7 ans de plus que moi. J'ai fait une amnésie totale pendant environ 25 ans où j'ai eu un premier flash. Et par la suite, j'ai été dans le déni jusqu'à l'âge de 50 ans où, suite à une émission sur l'inceste, j'ai réalisé que le mal-être dans lequel j'avais toujours vécu venait peut-être de là. Beaucoup d'autres souvenirs sont revenus par la suite, je n'en ai jamais parlé jusqu'à mes 50 ans où je l'ai dit à mon mari, à mes enfants. Voilà, vous pouvez bien sûr appeler, questionner nos invités, partager au 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission, bien sûr, si vous avez envie de dialoguer avec nos invités.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Alors peut-être, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'on entend exactement par inceste? Quelle est la définition sociale, juridique, Isabelle Steyer, de l'inceste?
Alors effectivement, jusqu'à il y a un an, nous n'avions pas de définition. Aujourd'hui, nous en avons une, c'est-à-dire que c'est une relation, c'est un viol commis par ascendants et collatéraux. La loi avait d'ailleurs déjà été annulée par le Conseil constitutionnel, d'où la difficulté de définir l'inceste. Jusqu'à combien de générations est-ce que c'est l'inceste? Jusqu'où sur les collatéraux c'est l'inceste? Et le code a dû trancher. Donc on est dans une définition stricte de l'inceste, hein, c'est-à-dire les ascendants et les collatéraux.
Alors, ascendants et collatéraux, est-ce qu'on peut traduire ça dans un langage simple?
Ah oui, dire parents, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs. Voilà. Et après, on a une circonstance aggravante selon laquelle les viols commis par ascendant ou par personne ayant autorité...
Par exemple, un beau-père.
C'est ça, un beau-père.
Ça devient... Ça peut être requalifié en inceste?
Alors, la requalification d'inceste, non. Mais c'est un viol sur mineur de moins de 15 ans, donc avec une circonstance aggravante et la personne en court 20 ans. Mais C'est vrai que la particularité est de pouvoir dire dans ces dossiers, quelle que soit la qualification juridique, c'est de pouvoir dire, d'expliquer et de porter cette parole jusque devant une cour d'assises, puisque ce sont des viols et des faits criminels. Et je crois que c'est là le plus difficile.
Alors vous voyez évidemment la partie qui arrive en justice.
Voilà.
Vous n'êtes pas psychothérapeute, vous êtes avocate, mais l'inceste le plus répandu, c'est sur quel lien de parenté ? On a tendance à parler beaucoup de père-fille.
Écoutez, celui qui est peut-être, pour moi, qui arrive jusqu'à mon cabinet, c'est peut-être le lien frère-sœur, parce que c'est peut-être, entre guillemets, celui qui détruit le moins, c'est terrible ce que je vais dire, les liens familiaux, parce qu'on ne nomme pas le père ou la mère, d'ailleurs, il y a l'inceste de la mère aussi, on n'en parle pas. Mais on pense ne pas détruire la cellule familiale. Parce qu'en déposant plainte ou en parlant, on vient détruire toute la cellule familiale. Et c'est ça la problématique des victimes. C'est qu'elles se disent, mais je vais tout casser, je vais être toute seule, définitivement. Souvent, je porte le nom de mon agresseur. Et donc, comment je fais pour vivre avec plus rien, plus de racines ? Et un juge des enfants disait que c'était un viol aussi du nom et de la filiation. C'est bien, tout est dit quand on dit que c'est un viol de la filiation, puisqu'on n'est plus inscrit quelque part et que tout doit être reconstruit. Sa propre histoire et l'histoire de sa famille.
Laurent Boyer, votre psychothérapeute vous a expliqué que vous aviez grandi dans une famille incestueuse. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais est-ce que aujourd'hui, avec le recul par rapport à ce qui vous est arrivé, vous pensez qu'il y a des familles qui sont plus prédisposées que d'autres à ce que ces faits incestueux surviennent ?
Je pense qu'il peut y avoir des familles plus disposées quand ces faits-là traversent les générations. Une famille dans laquelle un membre aura lui-même été victime dans son enfance, je dirais que cette fameuse mémoire transgénérationnelle peut se transmettre. Et il y a des familles où effectivement ce mal se transmet. Après, c'est vrai que quand mon psychothérapeute m'a parlé de famille incestueuse délirante, ça a été un véritable choc pour moi. Parce que moi-même, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça me paraissait vraiment tellement horrible, tellement impossible que ces mots puissent se coller à ma famille, que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre et à m'en relever.
Mais comme s'il y avait un climat qui rendait l'inceste possible, c'est cela, et pas seulement un inceste entre votre frère et vous-même, le viol que vous avez subi par votre frère ?
Un petit peu plus tard, lorsque j'ai parlé à ma mère et qu'elle m'a fait sa réponse en me disant qu'elle s'en était toujours doutée, effectivement, elle-même, elle a instauré ce climat qui a permis à mon frère de me violer. Parce que si elle avait simplement fait ce qu'elle a fait lorsque tout s'est arrêté, c'est-à-dire si elle nous avait changé de chambre, eh bien ce climat n'aurait plus été possible. Donc il y a des climats qui permettent, il y a des climats, des environnements, des dispositions dans la maison qui permettent l'inceste. Et quand on se doute de quelque chose, on peut très facilement couper ce climat-là.
Oui, vous écrivez que chaque ligne de votre livre a été écrite avec la nausée. C'est aussi ce qu'on ressent d'ailleurs quand on vous lit. Vous aviez 6 ans la première fois que votre frère vous a violé. Vous dormiez dans le même lit à chaque vacances scolaires. Votre frère était pensionnaire. Et quand il revenait, vous étiez dans la même chambre et dans le même lit. Il avait 10 ans de plus et ça a duré 3 ans. Donc il a été votre violeur de 16 ans à 19 ans et vous de 6 ans à 9 ans. C'est bien cela ?
Oui, c'est ça. Tout à fait.
Vous avez gardé le silence. Votre histoire a été recouverte un peu comme un linceul, finalement, de 6 ans à 9 ans, mais bien au-delà ensuite, pendant plus de 30 ans. Est-ce que c'était, comme le disait Isabelle Steyer aussi, la peur que la famille explose ou pas ?
Ah, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on fait partie de cette famille et on sait très bien que mais d'ailleurs de toute façon c'est justement cette famille et mon grand frère qui était mon héros qui exerce sur nous cette emprise qui nous maintient dans le silence, parce qu'on sait très bien que si on dit quoi que ce soit, plus que la peur de pas être cru, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer pour moi.
À un âge où on n'a que sa famille par définition d'ailleurs, pour se construire quand on est enfant et adolescent.
Et c'est d'ailleurs pour ça que l'inceste est tellement destructeur. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, on peut toujours se retourner auprès des nôtres, auprès de notre famille, pour être réconforté, pour pouvoir rebondir. Or là, on n'a personne auprès de qui se retourner. Et c'est vrai que de toujours, je me rappelle que de toujours, pour moi, parler, c'était à la rigueur mettre mes parents devant un choix, choisir entre mon frère et moi. Et puis c'était faire exploser cette famille. Et de toute façon, quand j'ai parlé 30 ans plus tard, ma famille n'a pas explosé, elle m'a exclue, elle m'a explosé de la famille. Donc,
c'est ça, elle vous a exclu pour ne pas exploser finalement, pour faire bloc contre vous.
Mais c'est malheureusement très très souvent le cas dans le cadre des familles, c'est souvent celui qui parle qui est exclu.
Mais finalement en affectant une forme de déni.
Ah, tout à fait. On préfère exclure celui qui parle. Et moi, ma famille a continué à faire comme si de rien n'était avec mon frère. Les réunions de famille, les Noëls se sont faits avec lui. Mais moi, on m'a textuellement dit, tu ne fais plus partie de la famille. Et c'était cette crainte que j'avais de tout petit. C'est-à-dire, malgré tout, cette famille, c'était à la rigueur tout ce qui nous reste, quoi. Et la crainte de ne plus faire partie de cette famille fait qu'on garde le silence parce qu'on se demande ce qui va se passer, ce qui va nous arriver et qu'est-ce qu'on va faire de nous.
Bien que votre mère ait reconnu implicitement que oui. Vous disiez la vérité.
Ben, c'est vrai que
c'est la seule.
C'est la seule, mais en même temps, ça a été un coup double pour moi. C'est-à-dire à la fois la première partie de sa phrase, c'était je te crois parce que je m'en suis toujours douté. Donc cette phrase a été vraiment très très destructrice. Et en écrivant mon livre et surtout en le relisant, je me suis rendu compte que j'en voulais énormément à ma mère, peut-être encore même plus qu'à mon frère, parce que bon, je suis parent.
De ne pas vous avoir protégé.
Ben voilà, le rôle de parent, c'est de protéger ses enfants. Et si elle s'en était doutée, elle aurait dû agir, elle aurait dû faire quelque chose.
Fabienne Giuliani, on est vraiment dans une souffrance très spécifique avec l'inceste, parce que déjà, par définition, l'inceste en général se reproduit pendant des années.
Se reproduit pendant... Alors la temporalité, ça peut aller jusqu'à 10-15 ans, et ça peut même parfois perdurer jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire même une fois passée la majorité, les relations incestueuses demeurent, parce qu'il y a un lien d'aliénation effectivement très fort, parfois. C'est ce qui rend aussi très difficile le constat au niveau juridique de ces faits. On ne voit pas forcément les violences physiques qu'elles occasionnent parce qu'elles se répercutent sur plusieurs années.
Le fait... Oui, Isabelle Steyer.
Déjà, il faut être deux pour que l'inceste puisse arriver. C'est-à-dire qu'il y a celui qui fait et il y a celui qui ne voit pas. Et quand on est dans ce couple infernal, eh bien, effectivement, l'effet continue pendant des années. Et là, la victime est liée dans ce comportement familial, puisqu'elle est née là-dedans, elle a été conçue là-dedans, elle a été imbibée de ça. Donc avant de pouvoir remettre en cause ce qui se passe, mais il faut avoir vu chez les autres comment c'était, il faut avoir pris conscience de ça pour pouvoir dénoncer. Et ce qui me semble extrêmement fort, c'est dans le témoignage de Laurent, c'est ce qu'il dénonce comme étant la solitude de la victime d'inceste. La victime d'inceste va se retrouver exclue de sa famille et donc seule. Et lorsque je suis en cour d'assises, je suis seule avec mon client ou ma cliente. Et tout ce côté de la cour d'assises est seul. Et de l'autre côté, il y a toute une tribu, qui est la tribu incestueuse, toute la famille qui nous regarde.
Appelez ça la tribu incestueuse ?
C'est une tribu, oui. C'est une tribu qui fonctionne avec un fonctionnement extrêmement particulier, souvent fermé, souvent quasiment sectaire, avec un père... ou un frère qui est un espèce de gourou dans la famille et qui donne le ton de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et il a un espèce de surpouvoir qui est donné. Et puis tous les autres qui ne voient pas, qui ne dénoncent pas, même qui adhèrent et qui trouvent ce fonctionnement normal, voire équilibrant, voire exceptionnel.
On parle de l'inceste aujourd'hui, vous restez avec nous. Bien évidemment, vous pouvez nous appeler. On parle aussi du rôle de toute la société, hein, et pas seulement de cette famille qui est très souvent dans le déni. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Laurent Boyer, en tant que fonctionnaire de police, puisqu'aujourd'hui donc, vous êtes capitaine de police, vous avez été évidemment confronté de nombreuses fois à des affaires d'inceste.
J'ai été confronté à des affaires d'inceste, oui. C'était compliqué pour moi.
C'était compliqué, dur, difficile pour vous ?
Oui, difficile de garder le recul nécessaire pour pouvoir faire son travail, difficile d'entendre un grand-père accuser sa petite-fille qui à l'époque avait 7 ans et de dire, enfin de l'écouter dire que bah, elle aussi, elle le cherchait, elle ouvrait la porte en petite culotte, tout ça. C'est difficile de pouvoir, quand on a été soi-même victime, ça l'est déjà quand on n'a pas été victime, mais quand on a été soi-même victime, c'est difficile de garder son sang-froid et de faire son travail malgré tout, parce qu'on voilà, il faut penser à la victime qui attend que qu'on l'aide dans ce processus qui est déjà difficile. Déposer plainte, c'est extrêmement compliqué. Et donc, voilà, c'était compliqué pour moi de pouvoir toujours garder ce recul suffisant.
Alors, d'autant plus que dans votre cas, vous n'avez jamais pu déposer plainte puisqu'il y a le délai de prescription et vous êtes bien au-delà du délai de prescription. Ouais. On en reparlera. Mais est-ce que, en tant que fonctionnaire de police, aujourd'hui, vous avez une clairvoyance supplémentaire sur ces affaires-là ?
Une clairvoyance, je sais pas. C'est plus souvent quand même mon expérience personnelle qui me permet d'avoir de la clairvoyance, parce que la clairvoyance en tant que fonctionnaire de police, ça serait justement de dire aux nombreuses personnes qui, depuis que j'ai écrit mon livre, m'envoient des messages et qui s'interrogent par rapport au dépôt de plainte, c'est justement cette clairvoyance, c'est de leur dire attention, il faut vraiment se préparer au dépôt de plainte. C'est quelque chose de difficile.
Une autre épreuve.
Voilà, c'est une autre épreuve et je pense que c'est à ce niveau-là que j'ai une clairvoyance, c'est de vraiment de prévenir les victimes, de leur dire attention. La justice, c'est quelque chose de très dur, avec des questions qui vont être très dures. Il faut vraiment s'attendre à quelque chose de compliqué et je pense que c'est à ce niveau-là que mon métier me permet d'avoir de la clairvoyance plus que sur les faits mêmes.
Ouais. Alors on va revenir avec vous aux différentes épreuves, ne serait-ce que de vivre avec ce silence-là qui est quelque chose, qui est une souffrance absolument gigantesque, largement équivalente aux faits eux-mêmes. Je voudrais qu'on revienne à la culpabilité, à la responsabilité de la société. À la fin des années 1980, il y a une émission de télévision en France où une victime qui témoigne pour la première fois à visage découvert devant la France entière, donc à la télévision. Beaucoup d'appels aussi qui, du coup, cherchent à légitimer le bonheur de l'inceste, d'être amoureux de sa fille. Ça semble complètement inconcevable aujourd'hui, quand même. Madame Giuliani.
Oui, mais alors après, ça fait suite à une période qui est la période des années 70, où il y a énormément de discours pro-pédophiles en France. Enfin, il y en a quand même, il y a des unes de Libération là-dessus, où il y a l'idée qui pour libérer la sexualité...
Oui, sur la pédophilie, mais sur l'inceste en tant que tel, c'est une pédophilie très particulière quand
non,
même.
Non, mais ça participe du même processus, parce que c'est l'idée qu'il faudrait libérer la sexualité de l'enfant, et que la mère, notamment, c'est souvent les femmes qui sont dénoncées comme des personnes qui brideraient trop la sexualité de l'enfant, donc il appartiendrait à certaines personnes extérieures ou intérieures au foyer à permettre à cette sexualité de se libérer.
Sous-entendu, en fait, tous les enfants ont des fantasmes, c'est ça, Oedipe, décrit par Freud, et donc il faut laisser les fantasmes se libérer. Il y a eu ça à un moment donné, on est arrivé à ce délire-là.
Oui, il y a eu une bonne dizaine d'années en France où il y a eu ces discours-là. Ils sont très bien analysés par une historienne qui s'appelle Anne-Claude Ambroise Rendu, et au début des années 80, on est encore dans ce contexte-là. Aujourd'hui, ce qui a permis justement de ne plus avoir ce type de discours, c'est que les victimes ont témoigné. Il y a aussi eu un combat important des féministes, mais il y a aussi des livres comme celui d'Eva Thomas en 1986 qui ont permis de montrer que non, c'est pas drôle. Non, un enfant ne désire pas ça. Donc ça a été très important, ces témoignages.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de dire que l'adulte ne peut pas faire une intrusion dans la sexualité de l'enfant. Et ce sont deux niveaux différents. Un petit garçon et une petite fille de 6 ans qui se découvrent, ce n'est pas un homme et une femme de 30 ans qui ont une relation consentie.
Alors vous restez avec nous, Laurent Boyer, Isabelle Steyer et Fabienne Giuliani. Aujourd'hui, comment mieux reconnaître les victimes d'inceste? Quelle difficulté aussi pour des condamnations en justice? Quelle a été l'évolution de la société depuis le 19e siècle? Puisque vous avez étudié l'inceste au 19e siècle, il y a quand même des choses assez incroyables à découvrir. Et peut-on se reconstruire même sans la justice? Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI, 7 milliards de voisins. Restez avec nous.